Bonjour, Caroline Mathieu, fondatrice de l'organisme Reprendre ma vie. Bienvenue au deuxième épisode de ce podcast qui se veut des témoignages de victimes de pervers narcissiques afin de sensibiliser les gens à reconnaître ce type de violence et de sortir de l'isolement. Cette semaine, une femme forte et inspirante nous raconte comment la violence et la manipulation ont été présents pendant la majorité de sa vie et comment elle réussit maintenant à se sortir de ce cycle malsain et destructeur. Alors, bonjour Mélanie. Merci d'avoir accepté de partager ton vécu avec nous. Si j'ai bien compris dans nos conversations là, avant l'enregistrement, toi, tu te relèves d'une relation de 7 ans avec un manipulateur pervers narcissique, c'est ça?
Oui.
Donc, toi, comment en es-tu arrivée, en fait, à ce constat que ton ancien conjoint était un manipulateur et quelqu'un qui utilisait la violence, en fait, dans votre relation?
Mais moi, ça a été long avant que j'en vienne au constat. Justement, ça a pris avant que je sois capable vraiment de nommer le fait que ce soit une relation où je vivais de la violence. Ça a pris un bon 6 ans certainement. Je savais depuis le début, après 3 semaines que je l'ai rencontré, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais j'arrivais pas à cerner ce que c'était et je ne voyais pas vraiment la violence non plus que je vivais, étant donné que c'était une violence psychologique. Et c'est quelqu'un de très calme qui ne lève très très rarement, qui va élever très rarement le ton, qui est toujours en maîtrise de lui-même. Donc ça m'a pris beaucoup de temps à identifier la violence vécue.
C'est quoi les signes, en fait? Qu'est-ce qui t'a allumé à un moment donné pour te faire dire « Ah, oh, je pense que ça pourrait s'appeler de la violence » ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus récemment puis au début tu te posais la question en fait de savoir c'était quoi puis t'étais juste pas bien dans cette relation-là?
Ouais, ben en fait, moi, mon problème, c'était que je travaillais en relation d'aide avec des gens qui ont vécu beaucoup de violence, et paradoxalement, donc c'est cordonnier mal chaussé. Et je me disais, je savais que c'est une personne très traumatisée, d'ailleurs il jouait beaucoup avec ça, il vient d'une famille très violente, il a été battu, vraiment torturé dans son enfance, donc... moi, je me disais, bon, c'est normal qu'il soit traumatisé, qu'il y a des comportements dysfonctionnels, disons, relationnellement, parce qu'il n'a pas pu établir une relation d'attachement avec ses parents. Donc, je rationalisais beaucoup et je me disais que c'était à moi de comprendre, que j'étais capable, en fait, de comprendre ça, étant donné que je suis quelqu'un de très compréhensif et que j'ai quand même une personnalité. Moi, je cherche toujours à comprendre, à me mettre dans la peau des autres aussi, puis...
À excuser les comportements de l'autre, ou...
Excuser... C'est-à-dire que je travaillais en plus dans un... Je travaille plus là maintenant, dans un organisme qui expliquait la violence des personnes qui ont des comportements sociaux violents par un... Comment dire... L'excusait pas, mais le leitmotiv, si je peux dire, de cet organisme-là, c'est ce sont des personnes extrêmement souffrantes. Donc, je me sentais comme en responsable de je sais pas pourquoi, je pense plus comme ça maintenant. Mais bon, ça, c'était particulier à ma situation. Là, j'avais l'impression que, étant donné que je comprenais, je devais supporter la violence vécue. Puis ce qui a fait que j'ai arrêté d'accepter cette violence relationnelle, ça passait par mon corps. J'ai le nerf sciatique bloqué complètement. Donc 6 ans après, pendant cette relation-là, ça faisait 6 ans que j'étais avec la personne et j'avais de la difficulté à marcher. Donc moi, ça a fallu que ça passe par le corps pour que j'entreprenne des démarches finalement. Et je savais, j'avais beaucoup de peine. Je savais qu'il y avait quelque chose, je savais qu'il y avait quelque chose dans cette relation-là qui me ramenait à l'enfance. Je n'étais pas capable d'identifier quoi, mais la...
À ton enfance, à
toi? Oui, parce que la détresse souvent dans laquelle je me retrouvais me rappelait vaguement quelque chose que j'avais déjà vécu. Puis c'est pas clair.
Parce que quand tu parles de la détresse, tu parles de physique, ton nerf sciatique, mais ta détresse, ça devait être autre chose aussi. Est-ce que c'est un sentiment de malaise que tu avais puis que tu n'arrivais pas à expliquer?
Ben, en fait, pendant ma relation avec cette personne-là, c'était une personne qui faisait une crise à peu près une fois par mois ou une fois ou deux mois. C'était vraiment cyclique. Étant donné que je connaissais le cycle de la violence conjugale, j'avais été capable de voir là, que c'était vraiment un cycle. Donc, il y avait le climat de tension très tendu. Tout à coup, ça éclatait. Et il m'abandonnait 3-4 jours après que ça a éclaté. Et il revenait comme si de rien s'était, comme si absolument rien s'était passé. Ça, c'était vraiment frappant, là. Bon, là, il me suppliait. Moi, je voulais pas revenir avec lui parce que je trouvais ça trop souffrant. Mais là, il me suppliait, puis je finissais par avoir pitié aussi. Je trouvais qu'il avait l'air vraiment désolé. Donc, je trouvais que c'était comme un petit enfant perdu. Je le voyais comme ça à l'époque. Je ne le vois plus comme ça maintenant.
C'est ton côté empathique, peut-être, aussi, de voir, comme tu disais tantôt, de connaître son passé. Tu avais peut-être le côté empathique à ce moment-là qui prenait le dessus.
Oui.
Le côté maternel, un peu, d'aider...
le petit enfant blessé.
L'enfant blessé, ouais, le petit oiseau blessé.
Oui, que je voyais. Puis, étant donné aussi que j'ai une formation en psychologie humaniste, j'avais la croyance que toute personne est capable de grandir, de changer, d'évoluer. Et je me disais, en fait, j'avais beaucoup... Je savais même pas que ça pouvait exister quelqu'un qui était coupé de ses émotions à ce point-là. Donc, puis... Le fait qu'il mime les émotions, ça m'a pris beaucoup de temps à le détecter. Ben, au début, j'y croyais carrément pas. Là. J'étais allée lire des définitions du problème de perversion narcissique. Et je trouvais ça exagéré parce que justement, je me disais, ben, on est toujours deux. It takes two to tango. Tu sais, j'ai ma part de responsabilité. Et à un moment donné, j'ai vu des exemples concrets. Comme quoi, il mimait les émotions. Mais ça a pris du temps.
Qu'est-ce que tu veux dire par « il mimait des émotions »
C'est-à-dire qu'il y avait des comportements émotifs, affectifs, qui n'étaient pas adaptés aux situations. Comment dire?
Parce que moi, ce qui me vient en tête, parce que moi, il y a un exemple que j'ai vécu. Mettons, quand la personne me disait qu'elle m'aimait, avec son visage, elle faisait des mimiques qu'on pouvait voir dans les films, alors que je ne sentais pas l'émotion qui venait. Est-ce que c'est ça que tu veux dire un peu? Que la personne imite un sentiment physiquement, mais que tu sens pas qu'elle ressent, c'est-tu un peu ça ou...
Non, moi c'était plus... par exemple, on a eu une grosse dispute un soir et il s'en retourne chez lui dans son appartement et moi j'étais allée le retrouver dans son appartement pour parler parce qu'il refusait toute communication la plupart du temps et là j'étais très en colère. Et parce que, en tout cas, et là, je me suis rendue chez lui et quand je suis rentrée chez lui, il a mis une petite musique de fond, il m'a offert un verre de vin, comme si...
Comme si
j'étais une voisine qui arrivait, c'est difficile à décrire, mais j'ai réussi à mettre le doigt sur plusieurs exemples comme ça. Et quand je l'ai vécu, cet exemple-là d'arriver, on est en situation de crise, là, il y a une rupture qui est en vue, il est supposé être affecté. Et le fait de jouer comme la scène...
Mise en scène.
Oui. Puis c'est ça, chez lui aussi, ça ressemblait vraiment aussi à un décor de cinéma. Puis je me souviens que je me sentais... C'est ça, j'étais... ce qui se déroulait ne coïncidait pas avec la situation de crise qu'on vivait dans le couple. Là. C'était pas léger. On met pas une petite musique jazz quand on vient d'avoir une grosse dispute mm-hmm. avec son conjoint qu'on aime et avec qui on fait des projets de
toi,
vie.
Tu devais être toute retournée, pleine d'émotions, puis tu vois que l'autre n'en a pas vraiment.
Puis je savais pas comment interpréter ça. Ça me déstabilisait complètement. J'étais très fâchée. Mais je n'étais pas capable de comprendre pourquoi j'étais aussi fâchée, en fait. Ça, c'est un exemple. Puis je pense que j'ai commencé à être capable de nommer les actes violents, les moments violents, à partir du moment où j'ai commencé à consulter un thérapeute. À cause de ma blessure au dos, je suis allée consulter un thérapeute.
Un thérapeute
Un ostéopathe.
OK.
Et l'ostéopathe, pendant qu'il me faisait le soin, m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? » Parce que ça faisait 3 semaines. Et là, je me suis mis à pleurer et je me suis dit... j'ai dit « C'est relié avec des blessures d'enfance. » Ça a sorti. Puis là, j'ai demandé à l'ostéopathe « Pouvez-vous me diriger vers un thérapeute spécialisé pour soigner les blessures de la petite enfance? » Parce que moi, je me disais ça, c'est des blessures qui viennent de 2, 3, de 4 ans. Tellement ancienne que je m'en souviens plus puis que je n'ai jamais pu verbaliser. Et il m'a dirigé vers ce thérapeute qui, lui, connaissait peu il connaissait peut-être ça. On n'a jamais vraiment parlé de perversion narcissique, mais il a tout de suite commencé à travailler avec moi sur la responsabilisation de mon bien-être, c'est-à-dire sur l'importance de répondre à mes besoins.
Au lieu d'attendre que l'autre le fasse ou...
J'attendais
dans le sens que t'étais une déception que ton conjoint à l'époque répondait pas aux besoins que toi t'avais ou dans ce sens-là?
Ça devait être dans ce sens-là qui... c'est vraiment son approche à lui aussi, là. Tout le monde est responsable de sa vie, il répétait ça toujours. Puis oui, moi je me plaignais pas vraiment de que l'autre répondait pas à mes attentes, mais je me suis rendu compte au fil des rencontres avec ce thérapeute que effectivement je ne m'occupais pas bien de moi. Donc, ça a été le départ pour moi, de commencer à prendre conscience de comment je me traitais moi-même, comment je m'occupais de moi. Et ça a pris du temps quand même. Ça a pris des lectures, des rencontres avec ce thérapeute pour me rendre compte, moi, finalement, être capable de voir la violence que je vivais. Puis lui, il m'a souligné quelques événements violents aussi que j'ai vécu. J'ai raconté des anecdotes, puis à un moment donné, il me dit « Mon Dieu, mais c'est comme s'il t'avait donné un coup de poing en face. » Puis il m'a aidé à voir la violence, finalement.
Puis le fait, dans le fond, quand tu dis que c'était des blessures d'enfance, toi, tu parlais de ça, en quoi ton enfance était pour toi une blessure que tu traînais?
Parce que comme beaucoup, j'ai eu une enfance assez, une famille dysfonctionnelle, là. Mes parents sont séparés, j'étais très très jeune et ça a été conflictuel, là, dans un grand grand conflit, là. Donc ils se sont battus en cour pour avoir ma garde, ça a été, moi j'étais tout petite et mon père a gagné la garde, parce qu'il y avait plus d'argent, finalement.
C'était quand même rare à l'époque, là, de donner
très
la garde.
Très rare, oui.
À l'époque, là.
Je ne suis pas si vieille.
Non, c'est ça, je ne le voyais pas être... à le 39 ans.
Non.
Mais quand même, on est-tu dans ce temps-là, il y a 30 ans, c'était souvent la garde aux mères.
C'est très, très rare, très rare, oui. Donc... oui, c'est ça, ils se sont battus, puis après, ça a resté la guerre froide. Là, moi, j'appelle ça la guerre froide. Ils se sont jamais reparlés, mes parents.
OK.
Donc, puis je suis tombée... mon père a gagné la garde, et puis après, à la lumière, quand je revisite ça aujourd'hui un petit peu, je commence là, à m'interroger justement sur le fait de pourquoi il a fait ça, parce que mon père s'était jamais occupé des enfants, il avait jamais vraiment été présent, donc ça semble vraiment comme, ça ressemble beaucoup à un acte de vengeance, et bon, il savait pas vraiment non plus comment s'occuper d'un enfant, donc moi j'ai grandi en huis clos avec lui.
T'étais enfant unique ou t'avais des frères et sœurs?
J'ai des frères et sœurs, mais ils sont beaucoup plus vieux que moi. Là, ils ont une douzaine d'années. Je suis comme une erreur là, de fin de parcours. Donc, j'étais comme un enfant unique, finalement. Il était parti de la maison.
Puis ta mère, à ce moment-là, est-ce que tu continues à la voir aussi?
Oui, je la voyais quand même la fin de semaine.
Puis la relation avec ton père à ce moment-là, quand tu dis que tu pensais que c'était peut-être un acte de vengeance envers ta mère, est-ce que tu avais l'impression que ton père était un peu lui-même agressif envers ta mère ou même envers toi?
Jamais.
Jamais. OK.
Chez nous, il n'y a jamais eu de gros mots, de coups.
OK.
C'était vraiment... de la violence psychologique, là. Tu sais, j'ai encore de la misère à le dire. C'est vraiment des comportements, là. C'est...
Est-ce que c'était de dévaloriser, la dévalorisation, ou juste le fait de pas nécessairement faire passer tes besoins avant les siens, dans le fond, que normalement, un parent fait passer les besoins de ses enfants en premier? Est-ce que lui, il réussissait à faire ça quand il était jeune? Ou est-ce qu'il faisait toujours passer les siens en premier? Puis juste ça, c'est déjà pour un enfant difficile à accepter, là.
Je dirais que je pense que mon père avait une personnalité narcissique. Je suis pas certaine qu'il soit pervers narcissique. Je pense pas. Mais très narcissique, oui, égocentrique. Okay. J'étais comme son bijou qui sortait. Les femmes aiment beaucoup ça. Les hommes avec un jeune enfant, c'est très. Charmant. C'est un grand charmeur. Il parlait beaucoup. Il avait toujours une anecdote intéressante à raconter. Mais non, je crois pas qu'il répondait à mes besoins. Mais il répondait aux besoins de base. J'avais un toit, quand même, de la nourriture. Mais non, il répondait pas
vraiment. Tu sentais pas nécessairement d'abord le réconfort ou la sécurité?
Une certaine sécurité. Oui, c'était la toute-puissance. Hein, c'était papa tout-puissant. C'était un gros égo. Donc, il est capable de tout. C'est ça, j'ai remarqué qu'il y a des traits... parce que le fait de m'arrêter là, vraiment sur moi, de consulter un thérapeute, puis de m'étudier finalement plus, d'entrer un peu plus dans mon parcours, ça me permet de voir que les gars qui m'ont avec qui je suis vraiment tombée en amour dans ma vie, là, ce sont trois gros égos. Donc j'ai pu voir que chez moi, j'ai cette tendance à être attirée envers les gros égos, et comble du hasard, mon père est un gros égo. Donc pour moi, je pense que c'est un peu un retour à la maison.
C'est l'exemple que tu as eu aussi.
Avec mon papa protecteur, qui était capable de tout, de me protéger tout, puis qui allait tout régler.
On retourne souvent vers ce qu'on connaît, en fait. Toi, c'est ça que tu connaissais, une relation avec toi et quelqu'un qui est peut-être narcissique, comme tu dis.
Un narcissique, en fait, ça projette l'image qu'il est capable de tout faire.
Oui. D'être indestructible.
Il est indestructible, il est tout puissant. C'est la toute puissance, c'est pas vrai. Je l'ai bien. Maintenant, je suis en mesure de comprendre que c'est complètement faux, mais c'est vraiment l'image.
Il venait peut-être donner la force que toi, tu n'allais pas chercher en dedans de toi, est-ce que ça se peut?
Complètement. Mais j'attendais, sans le savoir, en fait. Mon thérapeute, c'est ça qu'il dit. Il dit. Le fait d'avoir vécu cette dernière relation, ça t'a permis de te rencontrer toi-même. Sûrement. Parce que je savais pas que je portais ça, évidemment, pendant que je le vivais. Je pensais que j'étais une femme forte, puis, tu sais, que j'étais... Je pensais pas que j'avais cette demande inconsciente d'être sauvée, d'être aidée.
Mais je pense que t'es une femme forte, parce que tu l'as aujourd'hui. Je pense juste que t'avais pas besoin de sortir cette force-là, parce que tu t'appuyais peut-être sur quelqu'un qui la mettait en avant. Est-ce que, je sais pas si ça fait du sens pour toi.
Paradoxalement, je la sortais, la force, parce que l'image de toute puissance, c'était une image. C'est moi qui soutenais tout, là, en arrière.
Oui, non, mais c'est ça. J'en doute même pas.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Puis maintenant, donc là, tu dis que tes autres relations aussi, donc tes autres relations que tu as eues, tu penses que toutes les relations, tu as l'impression d'être messieurs que tu es tombé vraiment en amour. Tu dis que c'est vraiment des personnes qui étaient centrées sur eux-mêmes, en fait.
Oui, complètement. C'est donc, même modèle.
Dans chaque relation, toi, tu t'oubliais et tu te centrais sur le bonheur et les besoins de l'autre.
Oui.
Puis ça, c'est quelque chose, j'imagine, que tu as réalisé à ta dernière relation, quand tu dis que quand tu as eu un problème, c'est souvent, c'est le corps qui parle, là, quand tu as un problème physique, puis tu es obligé d'aller faire de la thérapie, c'est à ce moment-là que tu as un peu découvert, que tu as découvert...
Oui, c'est ça, c'est que c'est à ce moment-là que comme les éléments du casse-tête se sont placés. Puis moi, je suis quelqu'un qui a déjà tendance à tout me mettre sur le dos. Donc
responsabilise.
Oui, trop.
Tu te rends quasiment coupable de...
Oui. OK. Parce que puis ça c'est vraiment un trait chez moi, donc je suis pas très difficile à culpabiliser, parce que déjà en partant je me dis j'aurais pu faire mieux, je devrais comprendre mieux, plus je devrais être plus si, je devrais être contente. Donc ça, c'est un trait que j'apprends à découvrir chez moi, donc ça fonctionne bien avec un pervers narcissique.
Mon avis, c'est super attirant pour un pervers narcissique, parce que tu t'oublies, tu penses à lui, Tu oui. nourris continuellement de cette, dans sa toute-puissance, en fait. Hein?
Oui, puis lui, ben, c'est exactement ça qu'il me dit. Tout est de ma faute. Tout est de, la, tout est de ma faute. Donc...
T'as pas besoin de te faire convaincre.
Non, parce que déjà même avant de qu'il le dise, probablement, à certains moments, j'allais le mentionner. Je le croyais moi-même. Bon, j'exagère un peu. Il y a quand même des... j'étais quand même consciente là, qu'il y avait un gros problème de communication. Il refusait toute communication. Mais moi, je faisais porter ça sur ses traumas d'enfance, justement. Tu vois, je pensais à son trauma d'enfance avant de penser à moi.
Mm-hmm.
Tandis qu'aujourd'hui, j'essaye d'inverser ça, c'est-à-dire,
moi,
je veux plus
de
vivre
toi.
De violence relationnelle. Mm-hmm. Peu importe la raison, peu importe que ce soit pour la meilleure cause du monde. Je veux plus accepter ça dans ma vie. Ça, ça m'aide parce que j'ai vraiment tendance, moi, à... Mmh. à Mère Teresa, en 12 guillemets.
T'as-tu tendance avec des amis aussi? Ou juste seulement en couple? À aller chercher des amis que tu sens qui ont besoin d'aide pour aller les aider, les sauver?
Non, plus maintenant. Non. Plus jeune un peu, mais plus maintenant, okay. Non. Non, ben le fait d'avoir travaillé en relation d'aide, je pense que ça, ça m'a un peu... ouais.
C'est, moi, là, c'est vraiment dans la... Tu toujours en relation d'aide actuellement?
Non, j'ai changé. Je fais de la recherche okay. en ce moment. J'ai changé de travail, justement, l'an dernier.
Est-ce que à cause de ça? Ou...
Non, ça c'est. Okay. On dirait que tout s'est placé... Il y a comme eu un gros changement.
Quand tu as décidé, dans le fond, de te recentrer sur toi, ça oui. a fait replacer les morceaux de casse-tête
oui,
autour.
Oui, oui, oui. Quand je me suis mis, ouais, j'ai décidé de m'occuper de...
Puis toi, t'as des enfants avec cet homme-là que tu nous parles? Donc ça, j'imagine
non.
que... Non, t'as pas d'enfants avec
lui? Pas avec lui, non.
Pas avec lui,
okay. Non, non.
Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui a facilité la séparation? Ou est-ce que la séparation a été vraiment difficile, étant donné le caractère de cette personne-là?
Ben... En fait, moi, je me séparais au moins une fois par 3 mois, là,
okay.
Parce que je voyais que ça avait aucun sens.
De ton plein gré ou lui?
Moi.
Toi, tu, ok. Parce que t'es plus capable d'en prendre.
Non, j'étais plus capable, vraiment. Puis je voyais que ça avait aucun sens parce que la base d'une relation, c'est la confiance et la possibilité de communiquer. Et je voyais qu'il y avait aucune communication possible parce qu'il refusait. Moi, j'avais pas le droit de m'exprimer. Aussitôt que je m'exprimais, c'était... Ça provoquait une crise. Donc, il fallait que je garde le silence, finalement, que je parle de tout et de rien. Mais si je parlais de moi ou de quelque chose qui
dans
me préoccupait...
Dans les émotions, tu ne peux pas être
oui,
dans les émotions.
Non, ou dans n'importe quoi qui concernait un projet, un simple projet de vacances, une fin de semaine, aller une fin de semaine à Québec. C'était okay. comme un sujet tabou. Ça, je ne comprenais
pourquoi,
pas non
moi,
plus.
Pourquoi c'est ça? C'était trop gros pour lui? Ou?
Je ne sais pas. Il ne voulait pas planifier rien.
Ah, okay.
Ça l'angoissait, ça le rendait agressif. Okay. Et dans ce temps-là...
Parce que c'était pas lui qui décidait ou...
C'était pas toujours comme ça, okay. c'est vrai. Mais les vacances, il prenait jamais de vacances. Je sais pas, c'est quelqu'un de très, très axé sur le travail. Puis je comprends pas vraiment. C'était quoi
peut-être
ça?
Peut-être le côté intimité. Est-ce qu'il y avait de la misère à aller en se disant une fin de semaine en intimité, c'était
non.
trop? Parce que, je disais,
non, parce qu'il était
si
toujours...
Si on est à Québec à deux, on n'a pas le choix de parler.
Non, il okay. était toujours ici. Okay. Il était... Non, il était toujours collé sur moi. Sauf qu'il était toujours au travail aussi. Donc, j'étais okay. toujours... Non, c'était pas ça. C'était... Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être parce que c'était moi qui proposais l'activité. C'est peut-être ça.
Ça venait pas de lui.
C'est très étrange, en tout cas. C'était comme pas normal. J'ai jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre.
Puis ton cheminement suite à la séparation, ça, c'est un cheminement depuis combien d'années à peu près? Ta séparation avec lui?
À partir d'aujourd'hui, là? Ça fait combien de temps que je suis séparée?
À peu près de combien d'années?
Ah, oh, ça fait... ça va faire 1 an.
OK, c'est récent
ouais,
quand même.
Dans un mois, récent. Ouais.
Okay. Okay, fait que t'es dans un cheminement, t'es quand même dans les débuts d'un cheminement, puis t'es déjà, je trouve que t'es rendu loin pour être quelqu'un, ça fait seulement 1 an que t'es séparée.
Pendant les 7 années, j'ai étudié la violence conjugale, c'est comme si...
Fait que si tu savais c'était quoi, tu t'es pas fait mettre un mot, tu sais, il y en a qui comprennent pas ce qui se passe, puis suite à la séparation, finalement, à un moment donné, ils comprennent le mot violence. Font, oh, OK, c'est ça. Puis là, juste d'absorber ce terme-là, des fois, c'est pas évident. Toi, dans le fond, tu le voyais à mesure que tu étais avec.
Hein? Je le voyais. Je voyais qu'il y avait un trouble. Je me disais, c'est un trouble de personnalité, probablement. Je sais pas. J'essayais de comprendre, mais j'étais dans la confusion. C'est ça aussi qui m'a... C'est comme si j'étais dans un brouillard. Parce que ce que je vivais, effectivement, étant donné qu'il m'a... Parce que... Tu sais, le double message, le chaud, le froid, c'est, tu sais, pour moi, j'étais la femme de sa vie, il voulait construire sa vie avec moi, il voulait finir, et il me disait souvent ça, je vais finir mes jours avec toi, tu sais. Puis...
En fond, tellement, quand on se fait dire ça.
Ben hein? Oui, puis c'était vraiment la fin des jours qui revenait, lui. Il pensait pas au début, puis au milieu, là, c'était la fin, tu sais, quand on va être des personnes âgées. Fait que c'était assez étrange aussi, mais bon, ça me touchait quand même à quelque part, probablement.
Oui, non, oui.
La femme vieillissante
oui.
Qui se fait dire « je vais t'aimer quand tu... »
Tu imagines, les deux à sortir de l'auto, puis...
Ouais. Effectivement. Fait que ça, il y avait ce message-là qui me rassurait beaucoup, parce que j'ai été abandonnée, laissée à moi-même quand j'étais enfant. Et l'autre message paradoxal, c'était ben on peut pas, je peux pas parler avec toi parce que tout, ah oui, tout va exploser, ça va exploser. Je disais, mais qu'est-ce qui va exploser? Puis là, je me disais, ah, c'est parce que dans son enfance, sa mère était folle, puis elle explosait. Fait qu'il il me transfère ce que sa mère fait, parce que moi je suis capable de communiquer, là.
Mm-hmm.
Non, il refusait. Fait que je disais, regarde, si on peut pas communiquer ensemble, c'est impossible de faire quoi, de construire quelque chose. Donc, je le laissais. Je le laissais aux 3 mois, puis il revenait. Puis il me disait, ah oui, je comprends pas pourquoi tu abandonnes tout le temps au lieu
de te battre pour nous deux.
Oui. Okay. Pourquoi tu casses tout au lieu de. Puis c'est
la finesse de te faire porter.
Les messages contradictoires. Moi, j'étais dans la brume, là. Je vivais une blessure d'abandon, puis en même temps, j'essayais de comprendre. Fait que je voyais vraiment pas clair. Vraiment, vraiment pas clair. Même une fois, puis ça me faisait de la peine, parce que ça me faisait revivre mon abandon de la petite enfant abandonnée. Puis une fois même, j'avais appelé à SOS Violence Conjugale, là. Puis j'avais dit, écoutez, je suis intervenante en relation d'aide, là. C'est un peu comme les ambulanciers ou les policiers qui ont peur d'appeler à l'hôpital parce que...
Ouais, ouais.
Puis j'avais dit, je sais que le cycle de la violence, il est là, mais je suis comme, on dirait que je suis pas capable de le voir clairement. J'étais prise, vraiment.
Puis suite, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence envers toi-même dans ta vie d'adulte? Parce que souvent, les cycles de violence font qu'on a une très faible estime de nous-mêmes. Toi, est-ce que ça t'a affecté l'estime? Ou est-ce que tu en avais plus à un moment donné? Ou comment ça l'a affecté ton estime à ce moment-là?
Ben, je ne sais pas. Je pense que déjà, j'avais une estime de moi, pas sur tous les plans, parce que notre estime de nous, elle peut être forte dans un domaine, puis moins dans l'autre.
Ton estime relationnelle, ton estime professionnelle, j'imagine qu'il fonctionnait bien, étant donné que tu avais un emploi et tout ça.
Oui.
C'est plus au niveau, peut-être, au niveau relationnel?
Affectif, je dirais, oui.
Parce que relationnel, ça fonctionnait bien avec les amis, l'entourage et tout ça?
Oui, ça va.
C'était
non,
vraiment
c'est... Mais je me sentais vraiment... J'avais vraiment honte, en fait. Vraiment, vraiment honte. Parce qu'étant donné que mes deux autres relations significatives dans ma vie... ont été avec des personnes narcissiques aussi. C'est mes relations amoureuses, moi, c'est des échecs, là, de A à Z, là, dans mon parcours. Fait que ça... Encore aujourd'hui, je suis en cheminement, là, mais c'est quelque chose de lourd à porter, parce que je me disais, bon, j'ai quelque chose qui va pas chez moi, t'sais. C'est clair que...
Est-ce que les gens autour de toi, des amis, de la famille ou quelqu'un te... voyais un peu ce qui se passait dans tes relations ou dans ta dernière relation, dans une des 3 relations que tu as eues qui sont significatives? Est-ce qu'il y en a qui voyaient aller et qui disaient ça, il y a quelque chose qui ne marche pas ou tout était bien caché? Parce que souvent, c'est bien caché et les gens ne le savent pas parce qu'ils voient juste le côté très charmant de la personne, donc ils ne s'en rendent pas compte. Là. Toi, est-ce qu'il y a des gens autour qui t'allumaient des lumières un peu ou pas du tout?
Dans la dernière relation, j'étais très isolée déjà. Les gens autour de moi, les plus proches, ce sont des gens c'est de ma famille qui proviennent d'un milieu dysfonctionnel. Et donc, quand je leur en parlais, ils ne comprenaient pas vraiment.
Puis tes enfants, à ce moment-là, étaient trop jeunes?
Mes enfants ont été la plus grande aide que j'ai eue parce qu'elle, la plus vieille, là, elle voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que mon dernier conjoint aimait beaucoup, beaucoup ma fille plus jeune et il n'aimait pas ma fille plus vieille, mais il cachait. Sauf qu'elle, les enfants, ça sent. Puis il y avait des comportements aussi étranges. Là, quand il était en crise, là, il n'y avait plus aucune expression faciale. Il regardait dans le vide. Puis ça, mes enfants, ils disaient, ça,
c'est
peur. Oui, oui, il fait peur. Oui, ma plus vieille avait peur de lui. Okay. Il n'a jamais levé le ton. Il n'a jamais rien fait, là. Elle avait peur, oui. Et okay. Ça, me l'a dit plus tard. Et puis, c'est en grande partie aussi à cause de ça que j'ai réussi à couper, là.
Parce que en le faisant pour tes enfants.
Oui, ça, c'était hors de question qu'ils reviennent ici à la maison.
Tu faisais encore passer, mais...
Quelqu'un d'autre, oui.
Il fallait que tu fasses passer quelqu'un d'autre.
C'est vrai.
Peut-être que tu l'aurais pas nécessairement fait juste pour toi.
Peut-être.
Que ça, tu le faisais pour quelqu'un d'autre.
Oui, oui.
Alors que toi, peut-être que tu aurais continué à le subir un peu plus longtemps.
Peut-être. Parce que ce que j'ai compris aussi dernièrement, c'est la relation d'emprise, hein, l'emprise. Ça, c'était pas clair pour moi c'était quoi l'emprise. Et j'étais... Il y a des fois où c'est moi qui ai retourné. Vers je savais que c'était super toxique puis que c'est quelqu'un de destructeur vraiment là parce qu'en 7 ans il ne construisait pas, il détruisait là. Ça,
mais quand tu retournais, j'imagine que tu avais encore l'image que tu t'étais fait au début de lui, l'image qui te montrait quand il était dans la lune de miel.
Ouais.
Après ça, on imagine que le restant de notre vie peut ressemblait à ça, puis finalement, en cours de route, c'est pas nécessairement ce qui se passe.
Mais c'est vraiment pas ce qui se passe.
Mais en fait, avec cette idée-là en disant, ben.
Oui.
Parce que des fois, on a de la misère à lâcher prise sur l'image qu'on s'est faite, puis finalement, la personne ne nous retourne pas cette image-là, mais on veut tellement.
Oui.
Puis surtout, si tu culpabilisais,
oui.
Puis tu disais, c'est moi qu'il faut que je change quelque chose.
C'est moi qui n'est pas correct.
C'est moi qui n'est pas correct. Donc, en retournant, ben là, cette fois-ci, je vais mettre de l'eau dans mon bain.
Oui. Puis la particularité aussi que je vivais, c'est que quand ça faisait une semaine, deux semaines, trois semaines qu'on s'était pas vu, lui, il devenait un personnage, le personnage dont je rêvais, dans le fond, il devenait quelqu'un de très calme. Il lisait beaucoup de livres de psychologie. Donc là, il me servait les lectures qu'il avait fait, comme si c'était qu'il avait fait un travail sur lui-même, puis qu'il avait beaucoup réfléchi. Puis moi, je tombais là-dedans. Après, je me disais, ah, mais il se remet vraiment en question. Puis ça a pris du temps avant que je vois que ça, c'était un comportement de manipulation. Il savait que ça, moi, j'accrochais à ce genre
de... Parce que lui, était-tu déjà intéressé à la psychologie ou il faisait comme justement où il s'en est intéressé parce qu'il savait que c'était ton dada, puis en disant, en s'intéressant à ce sujet-là, ben c'est ça, il s'en servait comme manipulation pour toi?
C'est quelqu'un de très, très, très brillant, vraiment, et qui lit beaucoup de tout.
OK.
Donc, intéressé par la psychologie, probablement, mais intéressé pour à peu près tout ce qui est intéressant.
C'est ça, je suis contente que tu dises, parce que souvent, les gens pensent que, quand tu disais la violence, on pense toujours à quelqu'un, souvent, tu sais, on dit quelqu'un qui n'est pas instruit, qui ne sait pas comment parler, mais c'est pas ça, c'est vraiment...
Non.
Puis souvent, les parents narcissiques, c'est des gens très intelligents.
Oui, mais très, très, très charmant. Charmant. Le côté violent ne sort vraiment que dans la relation affective, en tout cas avec cette personne-là, parce que avec ses collègues de travail, avec ses... pas vraiment d'amis, mais quand même des gens à peu près, c'est un ange. C'est un ange d'altruisme, là. Donc, c'est vraiment... Le côté violent sort dans la relation intime, affective.
Les portes
fermées. Oui.
Et toi, est-ce que tu voyais la différence quand tu avais, mettons, des amis ou de la visite, de la façon qu'ils étaient avec toi, avec les gens, puis quand les gens s'en allaient, est-ce que tu voyais vraiment une différence entre les deux? Ou c'était pas si flagrant que ça?
C'était pas si flagrant que ça. Il y avait quand même un petit côté sauvage, donc il était pas si... avec ma famille, il allait se mettre un peu en retrait, il faisait pas le flamboyant devant ma famille. C'est plus envers ses collègues de travail et son monde à lui.
Contrôlé, ouais, c'est ça.
En fait, il me tenait à l'écart aussi de ce monde-là, complètement.
Okay.
Moi, il y avait comme un ami très proche, là, je pense que je l'ai croisé une fois dans le cadre de porte, puis il y a un enfant aussi, puis il a coupé, il s'est organisé pour que...
Ah oui, OK.
Oui, ça, c'était très bizarre. C'était, il y avait plusieurs petits trucs bizarres comme ça, là.
Et que quand t'es dans la relation, tu le vois pas parce que tu prêtes pas à l'autre des mauvaises intentions.
Non.
Donc, tu trouves toujours des excuses dans la tête un peu pour normaliser ce qui se passe.
Puis lui, il y a toujours des justifications aussi. C'est parce que, comme il me disait que son enfant voulait pas me voir, parce qu'il était fâché après moi, parce que j'avais un comportement, j'avais été en colère une fois, et puis son enfant avait été témoin de textos qu'on s'était écrits, puis depuis ce temps, tu sais, c'était ma faute, là.
OK.
Ce genre d'affaires, là.
OK. Puis qu'est-ce que tu as fait après pour t'en sortir? Donc, tu as parlé de psychothérapie. Est-ce que tu as d'autres sortes de thérapies qui t'ont aidé? Est-ce que...
Moi,
Le jouet, tu as des livres sur la table. Tu étais allée vers la lecture, c'est ça qui t'a aidé?
Ben, pas vraiment, parce que la lecture, tu vois, j'avais commencé à lire sur la manipulation narcissique, les manipulateurs narcissiques, pendant que j'étais dans la relation, puis je trouvais que c'était trop exagéré. Oh, puis je regardais des sites français aussi, qui sont très bien, là. Mais moi, ça collait pas avec... comme, ils me rabaissaient jamais devant les autres, puis je trouvais ça exagéré. Mais j'ai tendance à dédramatiser aussi, donc... Puis je me disais, ben non, voyons, c'est pas si pire, puis... j'ai encore tendance à me dire ça. Des fois, je me réveille le matin, puis je me dis, c'était-tu si pire que ça? Je revois les beaux côtés des choses, Fait que je me suis fait une liste. J'ai pris les caractéristiques de Isabelle Nazar-Aga, là.
Les 30 points
caractéristiques du manipulateur. Et un jour, j'ai écrit les 30 et j'ai écrit des exemples concrets à côté. Donc, j'ai vraiment nommé les agressions, finalement. Et je la ressors encore, là, des fois. Quand je me réveille en me disant « Oh, c'était pas si pire que ça », je la ressors et je l'arrive, puis tout de suite, ça me replace. Ça me replace dans la réalité. j'en reviens pas d'être obligée de faire ça, mais ça marche.
Oui, puis, mais c'est parce qu'à un moment donné, parce que le doute que c'est notre faute, je pense que c'est un combat qu'on va peut-être avoir un peu toute notre vie.
C'est un trait que j'ai.
C'est ça, c'est ça. Parce que souvent, les victimes, c'est qu'on est empathique, on pense aux autres, aux besoins des autres, on fait tout le temps passer les autres avant nous-mêmes. Donc, c'est des traits de caractéristiques. C'est dans notre personnalité de vouloir calmer la tempête et de prendre ça sur notre dos. Donc, on oublie, je pense. Puis on finit par penser que « Oh, il n'y avait peut-être pas si tard que ça. Peut-être que c'est un peu de ma faute. » Puis là, tu repasses. Tu sais, souvent, on a les vidéos qui nous repassent en tête. Mm-hmm. Moi, quand il disait ça, peut-être qu'il avait un peu raison, finalement. Puis là, on remet en doute des fois, là.
Oui, vraiment. Puis ça, là, moi, j'ai découvert, justement, le fait de nommer les agressions puis de les écrire, là. Parce que quand les vidéos positives partent, là, parce qu'il y en a, il y a eu des moments extraordinaires, là, on s'entend, hein, c'est le propre, la caractéristique de ces personnalités-là,
c'est l'intensité.
Oui. Quand ça part, la vidéo positive, là, faut que je me ramène. Parce que quand j'ai juste à me repasser un épisode négatif, là, et ça me coupe toute envie de retourner dans cette relation-là.
Est-ce que tu ressens, quand tu lis ta liste, est-ce que tu ressens physiquement un malaise? Tu sais, un mal de ventre. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, des fois, juste d'y penser, tu te sens-tu crispé, un mal... Tu le sens-tu physiquement ou c'est juste dans ta tête, tu dis « OK, non ». Est-ce que c'est très cérébral ou est-ce que vraiment encore physiquement tu ressens?
Ben, tu vois, c'est bien que tu me le mentionnes. Je porte pas
attention.
J'ai tendance à être beaucoup dans ma tête, moi.
Mais je vais... ton corps, t'as déjà parlé, je me dis probablement que ton corps doit se crisper.
Il a fallu qu'il parle fort en tabarouette parce qu'il m'a bloqué le sciatique pour que je sois capable de marcher. Fait que je suis vraiment... ça, c'est quelque chose que je travaille aussi, le rentrer en contact avec mon corps. Mais je vais...
être à l'écoute de ton corps.
Oui. Je vais rester attentive pour observer ça. Je pourrais pas te dire...
Ça fait-tu peur pour les prochaines relations?
Pas vraiment. On dirait que là, à un moment donné... c'est parce que faut dire aussi que on dirait que j'ai passé mon diplôme là. J'ai l'impression que c'est là que je suis rendue là. C'est comme OK là, c'est
t'en as eu assez.
Ouais, j'ai eu ma dose, je pense, pour être capable de reconnaître la violence des gens en partant et puis ça m'a permis moi aussi d'aller voir qu'est-ce qui fait que je suis attirée vers des hommes violents, vers ce genre de personnalité là. Fait que le fait de faire ça, ça m'a fait découvrir, là. Parce que là, j'étais allée au bout, moi, avec cette personne-là, là, ça, il y aura ça de bien. J'étais allée au bout du rêve, là, entre guillemets.
Ouais.
Et j'ai bien vu que c'est le bordel total. Il n'y a rien, là. L'image, le leurre, il y a une... Tu demandais qu'est-ce que je fais pour m'aider. Je vais dans un groupe de parole où on parle du phénomène. Ben, c'est des victimes de pervers narcissiques qui échangent ensemble. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Puis il y a une participante qui disait que souvent, au début de la relation, le pervers va mettre un leurre, hein, comme après un hameçon. Il te fait parler, il te saise un peu ta personnalité, puis il va te mettre un leurre. Puis moi, j'ai vu là, que ça, c'est vraiment ça qui est arrivé au début. Le leurre, je voulais qu'il me donne ce qu'il m'avait vendu. C'est pour ça que je retournais. Tu vas me donner ce que tu m'as vendu. T'sais. J'ai la tête dure. Là. Puis je suis retournée jusqu'à temps que je me rende compte que ça arriverait jamais, 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 puis que j'étais en train de me détruire complètement.
Tu perds de la santé.
Ah oui, oui. Je suis allée au bout, je pense. En tout cas, je le souhaite.
Puis t'es-tu contente maintenant, aujourd'hui, où t'es rendue dans ton cheminement? Même si c'est quand même récent. Un an après, si tu recules en arrière, tu te dis, voilà un an pour aujourd'hui, j'imagine que tu dois te sentir complètement différente. Est-ce que t'es quand même contente du cheminement que t'as fait parce que ça t'encourage pour les prochaines années?
Oui, en fait...
Vers la reconstruction, parce que quand on sait qu'après plusieurs années, souvent... Non seulement on est dans un nuage gris, puis on se demande un peu qui on est, mais il y a une reconstruction à faire.
Oui, c'est ça. Moi, je suis en plein là-dedans. Années, là. Je suis très contente d'être libérée, ça c'est clair. Maintenant, je suis contente d'avoir mis le doigt dessus, parce que ça me permet justement de poser des gestes pour me reconstruire. Mais je suis encore dans l'estimation des dégâts, là. Tu sais, je me rends compte que...
Oups. La recherche de nouveaux ancrages aussi, peut-être?
De nouveaux ancrages.
Non, je sais pas, parce que c'est souvent beau. Quand on s'oublie et qu'on pense aux autres,
oui, mais c'est
probablement
ça.
Qu'on n'a plus vraiment de... On ne sait plus ce que nous, on a besoin. On doit aller rechercher et nos besoins.
Ah, c'est ça, là. Je pense que je suis en train, justement, de me rendre compte que j'étais tellement habituée d'être pluguée sur son... Parce que j'attendais toujours que la tuile me tombe sur la tête, là. J'étais tellement pluguée sur lui que je sais, j'ai de la misère à savoir comment me pluguer sur moi-même, sur mon propre vécu.
Parce que tu ne l'as jamais fait. T'es tout le temps avec des gens pour qui tu te donnais pour eux.
Oui.
C'est jamais ça. Personne t'a demandé, toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?
Oui.
Puis toi, tu t'es les premiers
jamais posées. Ça, d'ailleurs, cette phrase-là, là, au début, quand je l'ai rencontrée, là, tu sais, la phrase, puis toi, comment ça va? Toi, comment tu vois ça, toi? Ça, là, mon père m'a jamais demandé ça de ma vie. Ma mère non plus. Ces hommes pervers là, que j'ai connus, non plus. Jamais, jamais. C'est jamais toi. Comment tu vois ça, toi? Explique-moi comment tu vois ça. Non, toi, t'existes pas. Mais oui, donc c'est c'est une renaissance. Puis en même temps, des fois, c'est un peu déstabilisant. Mais après... Le fait d'en parler avec d'autres, ça aide vraiment. Moi, c'est vraiment ça qui m'aide.
T'aide à voir que t'es pas tout seul?
Que je suis pas seule, que c'est que pas c'est un parcours linéaire.
C'est le même pattern un peu pour tout le monde.
Oui, exactement. Ben, que j'ai passé tellement d'années toute seule à essayer de comprendre, à lire des livres, puis à me dire, c'est moi qui ai un méchant problème. Et que le fait de voir qu'on est je pense qu'on est plus qu'on pense à vivre ça. De sortir de l'isolement, moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis la dernière rencontre où j'ai participé, je suis rentrée là, j'étais dans une passe un peu, pas déprimée, mais un peu down. Puis je travaillais beaucoup, puis j'étais fatiguée. Puis je suis sortie de là, je me sentais complètement revivifiée. Je me suis dit, enfin, je suis libre. Je me sentais libre, là, comme si j'avais...
Une bouffée d'air frais.
Oui! Que finalement, c'était pas triste, mon histoire, là. C'était comme, là, le
c'est vrai, hein, ça fait le pouvoir de recréer. De on dirait que ça, de reprendre possession de notre vie, là.
Ouais. Sortir de la cabane, là.
Ouais. Puis des endroits, je trouve, quand t'es en groupe, de pouvoir en parler, c'est que là, t'en parles intensément. On dirait que ça l'enlève toute la tension d'y penser pendant plusieurs jours après. Le fait, on dirait, de penser, d'en parler intensément avec des gens, puis là, tout le monde raconte leur histoire, puis après, ça te fait comme...
Ouais. Okay,
là, what's next pour moi, là, tu sais?
Ouais.
On dirait que ça l'aide à faire un peu de coupure pour ça.
Oui, puis entendre d'autres nommer leurs histoires, leur parcours, moi, ça me fait voir des choses que je voyais pas, que j'ai vécues. Ah oui, c'est vrai, moi aussi.
J'ai raconté des choses que toi, tu as vécues, puis là, quand oui. La personne le raconte, tu fais, ben oui, c'est de la violence, après ça, tu dis,
ben oh, oui, okay. C'est évident quand quelqu'un d'autre
c'est
le dit,
ça,
c'est
okay, ça. Ben ouais. Moi aussi, c'était ça d'abord,
ouais,
tu sais.
Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment, ouais, ça m'aide beaucoup.
Ouais. Ben, tu sais, c'est un cheminement à long terme aussi, je pense. Là.
Oui, je pense que...
C'est un cheminement à long terme, parce que même après, quand tu rencontres quelqu'un de sain, avec une relation oui. saine, tout est à apprendre aussi. Ça fait que c'est tout est, va être un cheminement dans toutes les prochaines étapes, parce que c'est comme si tu recommençais une nouvelle vie, là, en fait. Là.
Oui.
De recommencer une vie centrée sur tes besoins à toi, c'est nouveau. Là.
Puis le fait de vivre en paix aussi,
oui.
C'est étrange.
Oui.
Tu sais, j'étais toujours en situation de crise, en train
en
de gérer...
Anxiété. Tu devais être
oui.
en anxiété tout le temps.
Ou en conflit, lui, il est en... Lui, il n'était pas en résolution de problème, jamais, jamais. C'était en génération de conflits. Fait que là, je me dis, ah, mais je trouve ça plate des fois, mais je me dis, c'est peut-être juste parce que je ne suis pas habituée de vivre dans la paix.
Mm-hmm.
Fait que c'est un apprentissage.
Oui, c'est vrai. Ouais, merci beaucoup pour ton partage. Je suis certaine que ça va aider beaucoup de monde qui vont pouvoir s'identifier à ton histoire. Fait qu'un gros, gros merci.
Ben, merci
puis,
à toi.
T'es vraiment plus forte que tu penses.
Oh, t'es fine.
Oui.
Merci.
Ça paraît. Merci beaucoup.
Merci à toi, Caroline.